Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis. Vous êtes les premiers ce matin, que Dieu vous bénisse. Bonjour Marie-Huguette, que Dieu te bénisse. Bonjour Lalande, bonjour à Landry et à la petite famille, soyez bénis. Lundi, premier jour de notre série de bénédictions matinales pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez eu du bon temps avec la famille, avec les proches, si vous avez eu l'occasion de vous rapprocher un peu. Donc, soyez bénis. Bonjour France, sois bénie. Si Patrick est avec toi, mes salutations à mon ami Patrick. Que Dieu vous bénisse tous deux dans la belle région de Gatineau. Merci Lalande. Bonjour Guy, sois béni. Bonjour Tina, que Dieu te bénisse. Bonjour à Christophe et aux enfants. Good morning, Pastor David. God bless you. Happy to have you with us. Hopefully you had a great weekend with the church. Bonjour, Maggie. Soyez bénis. Bonne semaine à vous aussi. Alors, je ne vois pas tous les noms qui s'affichent ou tous les noms qui se connectent. Je ne les vois pas tous. Mais si vous me faites un petit mot dans la zone commentaire, assurément, je pourrai vous saluer tout personnellement. Bonjour à la belle-mère. Que Dieu vous bénisse. We had a great weekend. We had a blessed meeting yesterday, and we had a first restaurant date on Saturday, first in over 15 months, so was nice. Alors je disais au pasteur David que on a eu un beau week-end, que l'assemblée d'hier était bien bénie par la présence de Dieu, bien entendu, et que samedi soir, avec Daphné, on avait eu notre toute première sortie au restaurant en plus de 15 mois. Et comme vous savez que Daphné et moi, on aime la cuisine, on aime goûter des nouvelles choses, ben, une de nos petites gâteries, c'est d'aller au restaurant. Alors, pendant 15 mois, être privé de cette petite sortie, c'était long. Donc, on est allé dans un petit restaurant qu'on a l'habitude de fréquenter. C'est un restaurant dont les propriétaires sont chrétiens. Et c'était le dernier restaurant qu'on est allé visiter avant la pandémie. Et comme on se connaît bien, on a continué à commander chez eux. Mais je tenais à ce que notre toute première sortie au restaurant soit encore dans ce restaurant-là, tout simplement parce que c'est des frères dans la foi, parce qu'ils ont travaillé fort, parce que ils demandent souvent qu'on prie pour eux et tout ça. Donc, on voulait les encourager et on voulait faire en sorte, comme c'est notre restaurant préféré à Daphné et moi, on voulait s'assurer que on était là-bas pour notre toute première sortie au restaurant. Voilà, fait que j'ai fait la surprise à Daphné. Samedi, le matin, très tôt, vers 6h30, je crois, la maman, propriétaire du restaurant, m'a écrit pour me dire « Pasteur, on réouvre, mais on n'annonce pas. Donc, si vous voulez passer, vous me dites et je vous réserve une table. » Donc, j'ai attendu d'avoir une petite sortie à l'extérieur de la maison pour m'assurer de commander, ben, de réserver notre place. Voilà, donc on est allé souper au restaurant samedi. C'était très agréable le service. C'était encore génial. Puis c'était juste bien de se retrouver avec ces gens-là qui sont vraiment sympathiques et gentils. Voilà. Bonjour Lucie, soyez bénie. Dieu la bénisse, hermana Susana. Hello Sylvia, God bless you. Bonjour Jocelyne. Bonjour Jacques, soyez bénie. Jocelyne, je transmettrai les salutations à Daphné. Elle est au travail, bien entendu, ce matin. Salut Annie, que Dieu te bénisse. Content de te voir parmi nous ce matin. Sois bénie. Natacha, bonjour. Bon lundi à toi aussi. J'étais content de vous voir une autre fois hier matin lors de l'assemblée. Encore 3-4 minutes avant qu'on commence. Pour ceux qui veulent déjà ouvrir leur Bible, c'est le même passage qu'hier, bien entendu, puisqu'on poursuit l'enseignement d'hier dans Luc au chapitre 21, du verset 1 au verset 4. Good morning, Tante Luce. God bless you. Have a blessed week. Donc pour l'instant, tant que je garde le regard vers le bas, je garde mes lunettes. Mais après ça, quand je vais enseigner, après la lecture, je vais lever pour pas qu'il y ait de reflets comme il y a actuellement dans mes lunettes. Donc ne vous inquiétez pas si j'ai le regard qui est un peu plus bas aujourd'hui. C'est juste pour débuter. Bonjour Pascal, bonjour Gabriel, bonjour Jean-Bernard. Pascal, j'avais à cœur vendredi de prier pour votre maman. Donc à la toute fin de la rencontre, on a prié pour elle. J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle se trouve en forme. Donc, vous la saluez, s'il vous plaît, de ma part. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour Denise, soyez bénie, content de vous avoir avec nous ce matin. Marie-André, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à Farley aussi. J'étais content de vous voir hier. Shalom, shalom, la belle-mère, à vous et à la belle-sœur si elle est connectée avec vous. L'été est arrivé, donc bon, assurément, il y aura certaines personnes qui, à l'occasion, vont être absentes avec les vacances et tout ça. Mais on les retrouve après 1, 2, 3 semaines selon le temps de vacances. Et même certains prennent des vacances, mais ils continuent à nous suivre quotidiennement. Mais je sais qu'il y a certains qui déménageaient aussi. Donc, si vous voyez les nombres diminuer, il faut vraiment pas s'inquiéter avec ça. Je continue à prier pour votre maman, Pascal. J'ai hâte que Dieu ouvre la porte pour qu'elle puisse voyager jusqu'ici. Et assurément, c'est quelque chose qui doit vous tenir à cœur aussi. Donc, comme vous avez vu dans mon petit mot de salutation, cette semaine, le titre, c'est Comment Dieu qualifierait-il ce que je lui donne? Bonjour Denise, bonjour Gérard, soyez bénis. Je n'y manquerai pas, Natacha, je transmettrai les salutations. Et tes filles grandissent tellement et très tellement rapidement. De belles jeunes filles. Donc, tu les salues de ma part. Bonjour à ma mère. Bon, voilà un qui veut se faire déconnecter déjà avant même qu'on ne commence. Bonjour Soraya, que Dieu te bénisse, bonjour la petite famille. On a encore 1 minute et puis on va commencer. J'ai pas vérifié le son ce matin, j'aurais peut-être dû. Bonjour Suze. Je vais prendre juste 20 secondes pour vérifier ma connexion pour le son. Juste m'assurer que tout est beau. Ça semble être le réglage habituel. Je vais juste rapprocher peut-être le micro un peu. On va m'entendre un peu mieux. Hop. Voilà. C'était famille réduite hier. Merci Soraya. Alors, on prie et après ça, je vous donne, je repasse sur la thématique de cette semaine et le passage qu'on lit aujourd'hui. Alors Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci pour ce moment qui débute une semaine dans ta présence et qui débute une semaine dans l'étude de ta parole. On a faim et on a soif de toi et on confesse combien on a besoin de toi. Alors Seigneur, étends ta main sur notre entendement, étends ta main sur notre compréhension de ta parole. Ouvre, Seigneur, notre capacité à comprendre qui tu es, ce que tu désires de nous, ce que tu demandes de nous et ce que tu veux faire pour nous et par nous. Merci, Seigneur, de nous conscientiser sur l'importance de ce que nous t'offrons à travers, Seigneur, toute notre vie et tout notre être. Alors nous prions, Seigneur, cette semaine que tu nous parles. Que tu viennes éclairer peut-être des points obscurs de notre vie, des secteurs, Seigneur, qu'on tend à cacher, qu'on tend peut-être à dissimuler à travers des faux-semblants, à travers des choses qui sont artificielles. Ramène-nous à l'essentiel. Ramène-nous, Seigneur, à nous poser les questions importantes pour notre vie, à savoir. Qu'est-ce que nous amenons à ton autel? Alors, Seigneur, bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis toute personne qui se connecte avec nous ce matin, mais aussi toute personne qui se connecterait dans l'avenir, par le futur. Que ta bénédiction, Seigneur, coule aujourd'hui, coule demain, et qu'une grâce, Seigneur, toute particulière, nous soit accordée à tout un chacun. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de notre seul et unique Sauveur et Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, bien le bonjour, bienvenue à cette bénédiction matinale du lundi 5 juillet 2021. On poursuit aujourd'hui l'enseignement qu'on a initié hier matin. C'est moi qui prêchais. On a parlé sur deux passages connexes dans les Écritures, un qui se trouve dans Marc au chapitre 12 du verset 41 au verset 44, et le passage parallèle qui sera notre passage principal pour cette semaine dans Luc au chapitre 21 du verset 1 au verset 4. Donc ce qu'on va faire comme on a fait à travers les dernières semaines, on prend l'enseignement du dimanche et durant les 4 jours de méditation de cette semaine, on essaie de le développer un peu plus. on essaie d'aller un peu plus en profondeur, peut-être en illustrant les choses, en abordant des points qu'on a été forcés, faute de temps hier, de raccourcir ou d'éclipser. Donc, c'est ce qu'on va faire à travers les 4 prochains jours. Alors, je lis pour vous le passage qui nous sert de méditation, comme j'ai dit, dans Luc au chapitre 21, du verset 1 au verset 4. Luc 21, du verset 1 au verset 4, la Bible nous dit: Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Juste mettre un avertissement par rapport à cet enseignement. Effectivement, on parle des offrandes et effectivement, on parle du peuple qui venait apporter offrande à Dieu. Et comme on peut le faire nous aussi en tant que croyants et en tant que membres de l'Église. Par contre, cette semaine, je ne veux pas nécessairement parler et limiter, comme je l'ai fait hier en fait, je ne veux pas limiter notre exhortation sur une question financière. Je pense qu'effectivement, en tant que croyants et en tant que chrétiens, et en tant que membre du corps de Christ dans son ensemble, mais aussi membre de l'Église locale, il est de notre responsabilité à tous et chacun de contribuer financièrement à l'œuvre de Dieu. Toutefois, je veux que ce soit très clair que ce qu'on va parler cette semaine, même si le passage est illustré par des offrandes, on ne parle pas cette semaine d'argent. À forcément dire ou à proprement dire, on parle plutôt du fait de donner à Dieu et de s'interroger sur ce que nous lui offrons. On est tous les possesseurs d'un tas de choses. Oui, on a un peu de tribu chacun d'entre nous, on a un peu d'argent chacun d'entre nous. Certains en ont plus que d'autres, certains en ont un peu moins, mais chacun d'entre nous avons quand même un petit capital devant nous, qu'on investit dans le royaume de Dieu ou non. Mais au-delà de tout simplement une question financière, on a aussi du temps, on a aussi des habiletés, on a aussi des talents que Dieu nous donne. Et chacune de ces choses-là, inévitablement, nous sont données pour Dieu, pour que ce soit utilisé à l'avancement de son royaume. Donc la question pour cette semaine, dans tout ce que j'ai, dans mon temps, dans mes habiletés, dans mes aptitudes personnelles, dans les dons particuliers qui me sont donnés, que peut-être d'autres n'ont pas, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que cela sert effectivement au royaume de Dieu? Est-ce que je mets tous ces talents et tout ce que j'ai devant moi au profit du royaume de Dieu? Est-ce que Dieu peut en prendre effet? Est-ce qu'il peut en prendre bénéfice? Ou tout ce que j'ai, c'est pour moi tout d'abord, puis par la suite pour le Seigneur. Donc c'est dans ce sens-là qu'on veut parler cette semaine de la question de ce qu'on donne à Dieu. Non pas l'argent strictement, même si ça fait partie des choses sur lesquelles on va avoir des comptes à rendre à Dieu lorsque nous serons face à face avec lui, mais étendons ça plus large. Alors je reprends le premier verset qui va guider notre réflexion de ce matin. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Je répète. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Si on prenait le même passage dans Marc, le premier verset va nous dire, c'est le verset 41, dans ce cas, le verset 41 va nous dire: Jésus, s'étant assis près du tronc, regardait comment la foule y mettait l'argent, ou y mettait de l'argent plutôt. Alors laissez-moi vous expliquer ce qu'est le tronc, très brièvement, où ça se situe dans le temple. Vous savez que le temple était constitué de plusieurs parties, de plusieurs cours intérieures. Et parmi ces cours intérieures, donc ces petits jardins à l'intérieur du temple, chacun d'entre eux avait une vocation particulière. J'expliquais hier, à l'instar d'une prédication qu'on a faite il y a quelques semaines déjà, où on parlait de Jésus qui va chasser les vendeurs du temple. On vous rappelait que là où les vendeurs étaient, c'était essentiellement dans une cour qu'on appelait la cour des étrangers. Donc, un endroit qui était consacré, qui était voué principalement à ceux qui n'étaient pas juifs de naissance ou juifs de confession. Vous savez que pour rentrer dans le temple et pour s'approcher des lieux importants dans le temple, il fallait être juif. Mais on avait compris qu'il y avait des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui considéraient l'Éternel comme étant le Dieu réel, le Dieu unique, le Dieu qui existait, le Dieu véritable, et qui voulait lui offrir un culte. Il y avait aussi des gens qui étaient, on va dire, polythéologiques, on va dire. Ils avaient plusieurs dieux, et parmi ceux-là, ben, ils prenaient parfois à l'occasion un temps pour louer l'Éternel. Et pour ces gens-là, on avait donc ouvert une partie du temple qui était la cour des étrangers. C'est pas dans cet endroit que se trouvait la salle des trésors ou la salle de la trésorerie du temple. Ça se trouvait dans une cour qui était vouée principalement aux dames. Donc les hommes et les femmes dans une synagogue encore aujourd'hui ne sont pas dans les mêmes endroits. Les femmes vont être assises d'un côté, les hommes vont être assis de l'autre. Dans le temple à l'époque, c'était aussi la même chose. Et dans la cour des femmes, c'est là qu'il y avait non seulement l'appartement du souverain sacrificateur et des lévites qui étaient au service dans le temple, mais c'était là aussi qu'il y avait, on va dire, le bureau de la trésorerie ou de l'administration. Donc ça, c'était la salle du tronc ou la salle du trésor. Et autour de la salle du trésor, on va dire, il y avait des espèces de malles, des espèces de caissons dans lesquels les gens venaient déposer leur offrande. Bien entendu, ce n'était pas des coffres qu'on ouvrait, qu'on laissait ouverts, que les gens pouvaient, dans lesquels les gens venaient tout simplement verser leur argent. Ça aurait fait en sorte que quelqu'un aurait pu prendre aussi, piger dans ce trésor, dans ces réceptacles. Donc, ces boîtes étaient, et c'est ce qu'on appelle le tronc, c'était donc des malles, des caisses, qui était entouré de cornes, un peu comme on a vu il y a quelques semaines où on parlait du chauffard qui était une trompette faite à base d'une corne de bélier, de bouc ou autre. Donc là, il y avait des cornes qui étaient aussi apposées à ces caissons et qui étaient creusées. Et on faisait tomber les pièces d'or, d'argent ou pour la femme, qu'on va parler durant cette semaine, cette pauvre veuve, c'était des pièces de brass qui étaient le métal le moins coûteux. Donc, on faisait tomber nos pièces dans la grosse ouverture des cornes et petit à petit, donc, elles s'acheminaient. Elles tombaient directement dans le caisson. Quand c'était plein, il y avait des employés, des lévites qui venaient chercher le caisson, qui l'amenaient dans la pièce et on faisait le décompte des choses. Et on ramenait par la suite la boîte qui était vide et on venait tout au long de l'année, donc verser nos offrandes dans ces cornes. Donc c'est cet ensemble des cornes avec le caisson qu'on appelait le tronc. Et Jésus, de façon toute particulière, c'est très clair dans le passage de Marc, Jésus s'étant assis près du tronc. Jésus s'étant assis près du tronc. Donc, ce n'est pas un hasard que Jésus vienne s'asseoir là. Il rajoute même, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Donc Jésus est venu s'asseoir pour regarder effectivement comment les gens allaient effectivement donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère dans le temple et aussi pour l'office auprès des pauvres. Donc ici, ça nous apprend quatre points que j'aimerais partager avec vous ce matin. Dans le chapitre 21 de Luc, le verset 1 nous dit « Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes. » On va s'arrêter strictement sur ces deux mots. « Lever les yeux » et puis « voir ».« Lever les yeux », c'est le terme « anablepo ». A-N-A-B-L-E-P-O. Toujours en grec, puisque c'est dans le Nouveau Testament, bien entendu. Donc, « anablepo ». A-N-A-B-L-E-P-O, pour ceux qui prennent des notes, qui veut dire « porter le regard ». Ça veut dire que intentionnellement Jésus est là et il n'essaie pas de ne pas regarder, il n'essaie pas de détourner le regard, il fixe expressément, il fixe intentionnellement cet endroit avec le tronc, avec les cornes, il voit la foule qui fait la file, avec les riches qui se succèdent et qui versent avec grand bruit les pièces d'argent, les pièces d'or dans le coffre comme offrande. La première chose qu'on doit comprendre, si Jésus porte le regard, ça veut donc dire que Dieu regarde effectivement ce que je lui donne. Je rappelle pour ceux qui seraient arrivés en retard, cette semaine, on ne parle pas strictement de la question des finances et de ce que l'on donne en tant que dîme, en tant qu'offrande à Dieu. On va plus loin que ça. On prend en compte tout ce qu'on donne. Argent, temps, service, talent, implication, tout cela. Donc Dieu regarde ce qu'on lui donne. Au même titre où Jésus, en tant que Messie, en tant que maître, était là en train de regarder ce que les gens donnaient à l'offrande, Dieu regarde aussi ce que toi tu donnes. Ça veut donc dire que quand tu donnes, il voit, et quand tu refuses de donner, il voit aussi. Dieu connaît toutes choses, donc il voit et il regarde, et il a le droit de regard. C'est pas comme si il outrepassait un droit. Ça veut donc dire que même dans les choses que tu décides, soyons clairs, l'offrande était réglementée. La dîme, plutôt, était réglementée. Certains vont débattre, est-ce que la dîme a encore sa place dans le Nouveau Testament? Certains vont dire, non, ça n'a plus sa place. Je crois que la plupart du temps, ceux qui disent que la dîme n'a plus sa place, c'est des gens qui ont de la difficulté, à prime abord, à donner. Je crois qu'il n'y a rien qui annule la dîme dans le Nouveau Testament. Et je crois effectivement que contribuer à l'œuvre de Dieu fait partie d'une responsabilité de tous et chacun. Mais quelqu'un pourrait avoir une autre doctrine sur la dîme. Et je suppose que ça pourrait se débattre. Chose certaine, par contre, c'est qu'ici, on parle des offrandes et non plus de la dîme. Et les offrandes étaient une décision libre, étaient une décision propre à chacun. Et même là, Dieu regardait. Ça veut donc dire que Dieu regarde non seulement ce que tu es obligé ou ce que tu es tenu de faire, mais il regarde aussi ce que tu es libre de faire. Et ce faisant, il voit effectivement si, libre de ne pas faire la chose, si tu décides malgré tout de t'impliquer et de faire la chose. Comme je disais tout à l'heure, l'offrande était une décision libre, mais Jésus regardait. Et là, il va voir deux groupes. Il va voir des riches qui viennent porter leur surplus, tel qu'on va le mentionner dans le quatrième verset, donc on va en parler jeudi, et d'autres comme cette veuve qui va donner de son nécessaire, de ce qui lui est nécessaire pour sa vie de tous les jours. Donc Dieu regarde ce que tu donnes, même quand tu n'es pas obligé de donner. Juste cette idée du regard de Dieu devrait effectivement nous conscientiser ou nous amener à réfléchir. Donc, Dieu prend compte et Dieu regarde ce que tu lui donnes. Deuxièmement, un terme qui est un peu le synonyme de lever les yeux, c'est dans la section de phrase suivante qui nous dit « Jésus ayant levé les yeux, il vit les riches qui mettaient leur offrande. » Il vit. Le terme « voir », le verbe « voir » à l'infinitif, en grec, c'est le terme « horao ». H-O-R-A-O. Je répète, « voir », « horao », H-O-R-A-O. Ça a plusieurs sens et on va le décortiquer dans ces différents sens. La première perception ou la première définition qu'on dirait du terme « horao », c'est percevoir une chose ou avoir conscience d'une chose. Ça va plus loin que regarder. Regarder pourrait être tout simplement « j'ai vu la personne faire le geste ». Mais Dieu va plus loin. Dieu regarde ce que tu donnes dans le sens « il voit ce que tu donnes ». C'est non seulement il a observé de loin, mais précisément il tenait à regarder et à avoir conscience de ce que tu donnes. Donc, un, Dieu sait si tu donnes, et de surcroît à cela, il est conscient de ce que tu lui donnes. Ça veut donc dire qu'il a qualifié, qu'il a calibré, qu'il a compté ce que tu lui donnes. C'est comme si, lorsque la pièce tombe dans la corne et qu'elle tombe par la suite dans la malle ou dans le caisson, avant même que les autres lévites, ou que les lévites plutôt, viennent prendre le caisson et qu'ils regardent l'ensemble des offrandes qui ont été données, Jésus, lui, de son côté, est déjà conscient de ce que toi, tu as donné précisément. Donc, non seulement il y a cette question que Jésus voit si tu donnes ou si tu ne donnes pas, mais de surcroît à cela, Jésus est conscient de ce que tu donnes. Ça a un avantage. Ça a un bon côté, et ça aussi peut-être un côté un peu moins agréable. Ça veut donc dire que tu ne peux pas berner Dieu en prétendant que tu as donné beaucoup et que tu n'as pas donné. Ça m'amène à l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous savez, ce couple qui va vendre un champ, vendre un terrain, et qui va s'approcher, d'abord c'est le mari, il va s'approcher de Pierre, et va lui dire, hey, « Hé, regarde, on a vendu un champ et je t'amène le profit. » Alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas effectivement le montant qui a été donné. Et Pierre va lui dire, « Mais tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir à Dieu. » Et Ananias va mourir sur le coup. Sa femme, ne voyant pas Ananias revenir à la maison, va aller trouver les disciples, Pierre la voit arriver et lui dit, est-ce que vous avez vendu le champ à tel montant? Elle dit, effectivement, et après ça, on vous a amené tout ce qui en était sorti. Et Pierre lui dit, mais comment vous êtes-vous accordé pour mentir au Saint-Esprit d'une telle manière? Parce qu'en fait, ils avaient le droit de garder le montant qu'ils voulaient. Mais ces gens-là ont prétendu autre chose, ont prétendu donner beaucoup alors qu'ils avaient donné moindrement, alors qu'ils avaient le droit de donner le montant qu'ils voulaient. C'était une offrande, c'était pas une obligation. C'était pas une obligation, un, de vendre le champ. Il n'y avait pas une loi dans l'Église primitive qui disait « vous vendez vos champs et vous amenez tout en commun ». Et puis de surcroît à cela, le profit, tu en faisais ce que tu voulais, mais sois honnête dans ton approche avec Dieu. Et il y a des gens qui vont donner cette impression de donner beaucoup de temps, de donner beaucoup d'efforts. Il y a des gens, tu vas les regarder travailler, puis ils sont au bord de l'épuisement. Mais ils ne sont pas vraiment au bord de l'épuisement. Ils te donnent simplement l'impression qu'ils sont au bord de l'épuisement parce qu'ils veulent qu'on les applaudisse, parce qu'ils veulent qu'on les remarque comme s'étant exténué à l'ouvrage. Et ça, c'est mentir au Saint-Esprit. Jésus regardait ce que les gens allaient donner, et de surcroît à cela, Jésus percevait ce que les gens donnaient.
Donc, il était capable de voir. Regardez, lorsque la veuve va s'approcher, Jésus ne la connaît pas. Jésus ne lui a pas parlé. Jésus ne lui a pas demandé sa condition. Mais il dit de cette veuve-là, ce qu'elle, elle a donné, c'est de ce qui est nécessaire pour sa vie de tous les jours. Lorsqu'il regarde les riches donner, il est capable de percevoir que ce que ces riches donnent, ce n'est pas l'ensemble du profit, mais c'est tout simplement le restant, ce qui reste après avoir dépensé ce qui était correct pour eux. Donc, il est en train de dire, eux donnent de leur superflu, et je le sais parce que je connais combien ils ont, je connais ce qu'ils ont utilisé pour eux, et je sais que ce qu'ils amènent maintenant, c'est ce qu'ils n'utiliseront pas de toute manière. Alors, je sais que c'est leur superflu. Ça veut donc dire que Jésus était capable d'analyser ce qui était donné. Donc, non seulement Jésus regarde, mais Jésus est conscient. Et lorsqu'on prend le terme « orao », toujours le terme « orao », voir, au-delà de percevoir et d'être conscient, c'est porter un intérêt. Donc, Dieu regarde ce que tu lui donnes. Deux, Dieu est conscient de ce que tu lui donnes. Mais troisièmement, Dieu s'intéresse aussi à ce que tu lui donnes. Ça veut dire que Dieu s'intéresse à comment tu donnes. Dieu s'intéresse à combien tu lui donnes. Dieu s'intéresse à la qualité de ce que tu lui donnes. Est-ce que tu lui donnes simplement le restant de ce que tu as? Est-ce que tu lui donnes ce qui ne t'est pas utile? Est-ce que tu lui donnes de toute manière ce que tu ne vas pas utiliser? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Jésus le regarde. Ce que tu dis, amené au Seigneur. Lui regarde cela et il sait, il m'a donné de son meilleur ou il m'a donné son restant. Il m'a donné de ce qui lui est nécessaire et ce qui lui est cher ou il m'a donné ce qu'il dénigre. C'est un peu comme si tu reçois quelqu'un à la maison. Tu peux effectivement sortir le meilleur de ce que tu as, et on ne qualifiera pas ce qui est le meilleur, mais disons que tu as chez toi du filet mignon. Tu as peut-être le choix de donner à Dieu du filet mignon ou de lui donner du steak de Bologne. Du ballonné en bon québécois. Là. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de... Ceux qui sont au loin, le ballonné, c'est une espèce de viande froide qui n'est pas très coûteuse, qui n'est pas très chic non plus. Là, c'est pas du prosciutto, puis c'est pas du jambon de Bayonne. Loin de là, c'est vraiment dans le plus bas qu'il peut y avoir de viande froide. Donc, tu as le choix, tu reçois quelqu'un, tu le reçois au ballonné ou tu le reçois au filet mignon. Disons que tu as la chose dans ton frigo. Ce que tu vas donner, ça va témoigner de l'appréciation, de l'estime que tu as pour la personne que tu reçois. Alors, ce que tu donnes à Dieu va aussi témoigner de l'intérêt que tu as par rapport à Dieu et d'où tu le places dans l'importance. Lorsque les riches vont donner de leur superflu, lorsque les riches vont donner de leur restant, ça veut donc dire qu'ils amènent à la maison de Dieu quelque chose qui ne leur est pas utile, quelque chose qu'ils ne vont pas utiliser, quelque chose qui n'est pas précieux pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé cette première partie pour eux. Qu'est-ce que Dieu va dire de ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que Dieu va dire de ce que je lui donne? Pourra-t-il effectivement dire que je lui ai donné mon meilleur? Ou me fera-t-il remarquer qu'effectivement, je ne lui ai donné que ce qui ne me coûtait pas? Vous vous rappelez l'histoire, à un moment donné, de David, qui veut prendre un champ pour établir l'Arche de l'Alliance dans cet endroit-là. Et il va voir le propriétaire du champ et il veut l'acquérir. Et le propriétaire lui dit, non, mais oublie ça, je te donne le champ. Et David dit, non, pas question, je ne veux pas que tu me le donnes et je ne veux pas qu'il soit dit que j'ai donné quelque chose qui ne m'a rien coûté à l'Éternel. Donc, je veux acheter le champ pour le donner à l'Éternel. David tenait à ce qu'il allait donner à Dieu, lui ait coûté quelque chose. donner à Dieu devrait peut-être nous coûter quelque chose. Lorsque tu aimes quelqu'un et que tu lui fais un cadeau, ce cadeau-là, qu'il soit financier ou pas, va te coûter quelque chose. Tu vas lui donner de ton meilleur. Plus tu aimes cette personne, plus tu vas t'assurer de lui donner le meilleur. Il y a des parents qui se sacrifient pour envoyer les enfants dans des écoles prestigieuses et ils se disent, on va manger du ballonné, mais pour que l'enfant puisse aller à Harvard ou à la Sorbonne ou à telle université qui est huppée. Donc, ils disent, nous, on va se serrer la ceinture pour que nos enfants puissent avoir le meilleur. Pourquoi? Parce qu'on aime nos enfants. Quand il vient à être question de Dieu, est-ce que tu donnes à Dieu ce qu'il y a de meilleur chez toi ou tu lui donnes ce qu'il y a de moins utile, ce qui reste après t'être servi toi-même et après avoir servi toutes les autres préoccupations? S'il reste de quoi, ça vient donc à Dieu. Ça, c'est trois questions importantes pour nous ce matin, ou trois points importants. Dieu prend note, ou Dieu regarde ce que je lui donne. Dieu est conscient de ce que je lui donne. Je ne peux pas le berner. Il est conscient. Et troisièmement, Dieu s'intéresse. Il porte un intérêt à ce que je lui donne. Ce n'est pas futile pour lui ce que je lui donne. Si tu vas chez quelqu'un et on te reçoit mal ou on ne te reçoit pas à la hauteur de ce que tu estimerais qu'on devrait te recevoir, tu peux le prendre très personnel régulièrement. Très personnellement, régulièrement, et dire « Hey, j'ai été offensé par cette personne parce qu'elle m'a mal reçu. Elle m'a reçu comme si j'étais rien. Elle m'a même pas offert un verre d'eau. » Jésus va dire à Simon qu'il reçoit à un moment donné « Toi, tu m'as même pas lavé les pieds et tu ne m'as même pas donné du parfum. Tu ne m'as même pas, t'as même pas demandé à un de tes serviteurs de faire la chose la plus normale et la plus basse qui soit, de me laver les pieds. Donc, j'ai pas été reçu avec égard de ta part. » Dernier point pour aujourd'hui. Jésus est dans un endroit particulier. On l'a dit tout à l'heure, il va s'asseoir dans la cour des femmes, il va s'asseoir près de la trésorerie du temple, il va s'asseoir juste pour regarder, dans le bon endroit pour regarder ce que les gens amènent au temple. À une autre occasion, Jésus va dans le temple et il regarde les vendeurs et il les chasse. Donc Dieu est intéressé par ce qui se fait dans son Église. Non seulement ce que tu lui donnes dans ta vie de tous les jours, mais quelles sont les pratiques qu'il y a dans l'Église. Dieu regarde l'Église. Dieu regarde l'Église de 2021, que ce soit l'Église générale, que ce soit l'Église locale. Dieu regarde qu'est-ce qu'il s'y fait. Est-ce qu'il se fait quelque chose dans l'Église? Voilà pourquoi lorsque notre Église et notre province, notre région est tombée ou sont tombées en confinement, voilà pourquoi il a été important pour nous d'être encore plus actifs. Dieu n'était pas en congé, Dieu n'était pas en pause, et son Église ne devait donc pas être en pause. Et Dieu a regardé. Est-ce que ce temps de confinement et ce temps de pandémie a été un arrêt d'activité dans ta vie? Est-ce que ta chrétienté a pris une pause pendant cette pandémie? Est-ce que l'exercice de ta foi a pris une pause pendant cette pandémie? Est-ce que l'Église, quand tu étends un peu plus loin, est-ce que l'Église locale a pris une pause pendant cette pandémie? J'espère que lorsque Dieu nous regarde, bien plus que ce que Monsieur et Madame Tout-le-Monde pourraient penser, et ce que les croyants et les membres de la congrégation pourraient penser. Je crois que c'est important de nous poser la question à savoir est-ce qu'on a servi notre congrégation correctement? Est-ce que les gens ont senti que le service était toujours offert au niveau de l'Église, malgré la distance, malgré le confinement? Mais plus encore, qu'est-ce que Dieu en dit? Parce que Dieu regarde ce qui se passe dans le temple. Jésus va s'asseoir pour regarder ce qui se passe dans le temple. Est-ce que c'est une maison de commerce ou c'est une maison de prière? Est-ce que c'est une maison consacrée à l'homme ou c'est une maison consacrée à l'Éternel? Dieu regarde l'offrande. Quel est l'apport de chacun à cette œuvre qu'on appelle le temple, à cette œuvre qu'on appelle l'Église de Christ. Dieu regarde ce qui se fait dans l'Église. Et j'espère que lorsqu'on termine cette histoire de pandémie, j'espère que si Dieu a un compte à rendre, si Dieu a plutôt un verdict à rendre sur nous en tant qu'Église locale, j'espère que le Seigneur dira qu'on a fait notre boulot, qu'on a fait ce qu'il fallait faire, qu'on a été à la hauteur du mandat. Et j'espère que vous, en tant que membre de l'Église, vous penserez aussi la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce matin et on s'arrête là aujourd'hui? Dieu pose le regard sur ce que je lui donne. Dieu est conscient de ce que je lui donne en qualité et en quantité. Dieu s'intéresse à ce que je lui donne. Dieu veut voir ce que je lui donne. Et de surcroît à cela, Dieu prend note de ce qui se passe dans l'Église. Ce qui se fait dans l'Église et ce qui ne se fait pas dans l'Église, Dieu en prend note. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. Que le Seigneur puisse bénir cette parole. Je vais juste dire à Aziz Ouedraogo, nous ne sommes pas un endroit pour faire de la promotion sur qui que ce soit, si ce n'est que sur Jésus-Christ. Donc, je vais supprimer votre commentaire, même si vous nous avez dit bonsoir, parce qu'on ne fait l'éloge de personne d'autre et surtout pas d'agents du diable, de sorciers, de marabouts ou autres. Nous rendons simplement gloire à Dieu, gloire à Jésus qui est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Et on vous invite, puisque vous nous regardez ce matin, à vous tourner non pas vers des agents du diable, mais à vous tourner vers Christ, qui est le seul qui peut toutes choses. Que Dieu vous bénisse, Aziz. Alors voilà, c'était ce qu'on avait pour ce matin. On va prier pour cette parole. Seigneur, merci. Merci car tu nous amènes à nous poser de vraies questions sur ce que nous t'offrons et sur ce que nous faisons pour toi. Au-delà, Seigneur, d'une question financière, parce qu'on ne veut vraiment pas mettre de pression au niveau financier sur qui que ce soit ce matin. C'est pas l'objectif, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut ce matin, c'est tout simplement nous conscientiser tous et chacun sur le fait que ce que nous faisons pour toi est pris en compte. Ce que nous te donnons en temps, en travail, en implication, en service, tu le prends en compte, tu le notes. Et Seigneur, on ne peut pas te mentir. On ne peut pas dire « oui, j'ai travaillé si fort » alors qu'on ne t'a rien amené ou alors qu'on s'est économisé. On s'est épargné. On s'est évité plusieurs tâches. Non, Seigneur, nous voulons être... là où tu nous veux, nous voulons être trouvés en train de faire l'ouvrage auquel tu nous as appelés. Et Seigneur, tu t'intéresses aussi à ce qui se fait dans l'Église. Alors ce matin, c'est tant personnellement que collectivement que nous nous posons des questions. Sommes-nous effectivement en train de travailler pour le roi des rois? Sommes-nous effectivement en train d'offrir notre meilleur en tant qu'individu et en tant que collectivité à notre Dieu? Éclaire-nous, montre-nous où nous améliorer, montre-nous comment faire mieux pour être trouvé agréable à tes yeux. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos mains. Reçois, Seigneur, l'offrande de notre cœur. Reçois, Seigneur, l'offrande de notre vie et sois honoré par celle-ci. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors, c'était ça l'enseignement pour aujourd'hui. Simplement quelques petits rappels. Ce soir, lundi soir, 19h, on a cours biblique avec le pasteur André sur l'Église primitive. Donc, on vous invite à être là dès 19h, heure de Montréal, bien entendu, pour cette étude biblique. Si vous ne pouvez pas être là, comme vous en avez pris l'habitude, cet enseignement de ce soir sera toujours disponible tant sur la page Internet de l'Église que sur la page Facebook de l'Église. De surcroît à cela, les inscriptions ont toujours lieu, semaine après semaine. Et semaine après semaine, il faut s'inscrire. On va bientôt ouvrir un peu plus les vannes pour accueillir un peu plus de monde. on pense pouvoir atteindre autour de 115-120 personnes sous peu dans la salle. Donc, on vous invite à vous inscrire. C'est important. Toute personne âgée de 6 ans et plus peut venir. Hier, je racontais combien même la santé publique a été étonnée de ce que nous faisions et comment on a pris le cheval ou le taureau plutôt par les cornes lorsqu'un cas de COVID a été identifié dans la congrégation et dans l'équipe en service. Donc, on a pris toutes les mesures et les gens étaient étonnés combien on a été proactifs dans tout cela. Et je pense que c'était un bon témoignage pour l'Église locale, mais je pense que c'était aussi un bon témoignage au niveau de ce qu'est supposé être l'Église avec un grand E face aux autorités de santé publique. Donc, soyez sûr que si vous venez ici, ça reste un milieu qui est très sécur. On prend toutes les mesures nécessaires pour le garder sécuritaire, pour le garder ouvert aussi le plus longtemps possible. Donc, inscription pour toute personne âgée de 6 ans et plus. Vous le faites soit par la page par le courriel de l'Église, sinon en appelant au secrétariat. Vous nous laissez votre nom, votre numéro de téléphone ou votre courriel. Il faut que ce soit un numéro de téléphone ou un courriel actif pour qu'on puisse vous rappeler et finaliser votre inscription avec vous. Donc, tant qu'on ne vous a pas contacté, l'inscription n'est pas encore finale. Donc, vous avez jusqu'à vendredi midi pour vous inscrire. Et voilà. Donc, c'est juste ça que j'avais à vous dire. Je me réjouis déjà de vous retrouver demain matin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous invite, donnez votre meilleur au Seigneur. Faites le test aujourd'hui. Dites au Seigneur, regarde Seigneur, je vais te donner le meilleur de ce que j'ai aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il multiplie ce qu'il a placé entre vos mains pour bénir encore plus l'œuvre de Dieu et l'avancement de son royaume. Soyez bénis, bonne journée à tous et on se retrouve ce soir avec le pasteur André, sinon demain matin, pour notre prochaine bénédiction matinale. Au revoir tout le monde.